RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'heure suivante, magazine culturel, et nous allons également présenter l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La journée du Japon au centre de traitement de la toxicomanie Lubuk Pakam. Indonésie Channel 2018 a fermé le programme BSBI 2018. Les accords commerciaux à l'étranger devraient être améliorés. Les États-Unis évaluent l'Indonésie est important. La Banque mondiale est optimiste que la réunion du FMI se passe bien. Charmi nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement du Japon à Medan accueillera la journée du Japon au centre de traitement et de restauration de la toxicomanie de la Fondation Charitas de l'Arcidiocèse de Medan dans le district de Lubuk Pakam, la régence de Deli Serdang, le 7 juillet 2018. La Fondation a reçu la subvention du gouvernement du Japon à travers le programme Grassroots pour l'année financière 2016 d'un montant plus d'un milliard 41 millions de rupiahs pour la construction d'un centre de traitement et de récupération de la toxicomanie. La journée du Japon est la commémoration de l'amitié entre l'Indonésie et le Japon. L'un d'entre eux parlait de subventions grassroots accordées par le gouvernement japonais à Yayasan en Indonésie. Le vice-consul du Japon à Medan, Masamo Yamamori, a déclaré que la journée du Japon, que le gouvernement japonais par le personnel local examinerait la désignation du bâtiment et de socialiser le programme d'aide du gouvernement du Japon au public. Le premier à suivre les formes données à son institution. Ceci est correctement imposé. Nous donnons des instructions à l'institution afin que les fonds et les installations soient utilisés correctement. Et ensuite, le deuxième objectif est d'introduire nos activités de bureau à Medan. La journée du Japon se tiendra également avec des familles de patients en réadaptation. Le gouvernement japonais souhaite que l'activité de se réunir avec la famille puisse donner des informations sur l'importance du soutien familial dans le processus de guérison de la toxicomanie. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a ouvert les performances Indonesia Channel 2018 intitulées « The Color of Beautiful Indonesia » au Grand Théâtre Taman Ismail Marzuki, Jakarta, mercredi 4 juillet. Indonesia Channel 2018 est une manifestation culturelle colossale de l'Indonésie des œuvres de 62 amis indonésiens de 44 pays participants du programme de bourse d'études de la culture au BSBI 2018. L'événement a eu lieu à la fois pour fermer le programme BSBI 2018 qui a duré 3 mois. Dans son discours, la ministre Retno Marsudi a déclaré que le programme de BSBI est l'une des formes de diplomatie douce de l'Indonésie et la promotion de la paix, la tolérance et l'harmonie dans le monde.
This is the power of soft diplomacy. Remember always, soft power charms and disarms.
C'est le pouvoir de la diplomatie douce, le charme de la puissance douce qui est sans art, en accord avec le progrès humain qui nous donne le potentiel de mener une vie plus sûre, plus paisible et plus agréable. C'est une forme de diplomatie que l'Indonésie veut promouvoir au milieu de défis dynamiques et changes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Par conséquent, le programme devient de plus en plus pertinent en tant que l'une des contributions de l'Indonésie au monde et promouvoir la paix, la tolérance et l'harmonie. Selon la ministre Retno Marsudi, 72 participants de BSBI 2018, 13 d'entre eux ont choisi de rester en Indonésie et étudier plus profondément l'art et la culture de l'Indonésie. Ils apprennent les instruments de musique en bambou et l'art de la danse balinée. En outre, l'un d'entre eux écrira aussi un livre sur son expérience au cours du programme BSBI 2018. Indonesia Channel 2018 est une performance artistique et culturelle des participants à l'étude du programme BSBI 2018 avec différents contextes linguistiques et culturels. Pendant 3 mois, les participants au programme BSBI ont pratiqué au centre culturel. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les accords de coopération commerciale avec d'autres pays, y compris s'ouvrir, sont très importants maintenant et il est une obligation de devenir un pays développé. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre de Commerce, M. Enggartias Tolukita, à Medan, lors d'une conférence publique à l'Université de Prima. Le sujet de cours intitulé « Politique gouvernementale liée au commerce intérieur et extérieur ». Le ministre Enggartias a déclaré que d'autres pays considérés comme petits comme la Tunisie ont déjà eu une coopération commerciale avec de nombreux pays. Par conséquent, l'Indonésie devrait également le faire pour les exportations plus développées. Selon lui, la coopération et l'ouverture doivent être faites, notamment aux pays non traditionnels, afin d'accéder plus largement au marché d'exportation indonésien. L'orientation actuelle des exportations, selon le ministre, se concentre sur les produits de petites et moyennes entreprises. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, M. Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que les États-Unis considéraient l'Indonésie comme pays important, de sorte que la relation de partenariat stratégique entre les deux pays doit être maintenue. Luhut Panjaitan, dans son déclaration écrite à Jakarta, a déclaré jeudi que les États-Unis étaient le partenaire stratégique de l'Indonésie dans la coopération économique, de l'éducation, de la lutte contre le terrorisme et la coopération maritime. Il a assisté d'invitation en tant qu'invité d'honneur lors de la célébration de la journée de l'indépendance des États-Unis à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Joseph R. Donovan, à Jakarta, mercredi. Selon le ministre Luhut, la vision entre les États-Unis et l'Indonésie n'était pas très différente en termes de l'intensification de coopération, notamment dans le domaine maritime comme coopération bilatérale sur la guerre contre la pêche illégale, les questions environnementales et aussi respecter le droit international applicable. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, est optimiste que la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale se déroule bien après avoir observé directement les préparatifs du grand événement jeudi à Bali. Dans un communiqué de presse jeudi à Bali, le président Kim a observé la construction d'une statue de Garuda Vishnu Kencana qui devait être achevée en août. Il sait que ce projet a été construit très longtemps et que le gouvernement actuel est déterminé à l'achever. Il est optimiste qu'inviter le chef des pays à dîner ici serait spécial. Kim a déclaré être l'hôte de la réunion annuelle n'était pas une chose facile parce que cet événement a été suivi par des milliers de participants. Il a confirmé que la tenue de la réunion annuelle est une chose très compliquée, mais il croit la capacité et la détermination du comité sous la direction de Luhut Binsar Panjaitan. Kim croit également que le gouvernement indonésien peut surmonter les problèmes et les obstacles à Bali, notamment en ce qui concerne à Mount Agung, qui a récemment montré une activité accrue. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'inscription des candidats à la législature 2019-2024 ». L'inscription des législateurs ou des membres du Parlement ou des PR de 2019 à 2024 a été officiellement ouverte le mercredi 4 au 17 juillet 2018 par la Commission électorale. Avant l'ouverture de l'enregistrement, il y avait un faible sifflement dans le public concernant les conditions fixées par la Commission électorale pour les candidats législateurs allant de la limite d'éducation la plus basse à l'histoire passée d'un candidat. Le projecteur le plus public est lié à l'histoire passée des candidats. La Commission électorale générale, KPU, a souligné que les candidats qui ont été impliqués dans des affaires juridiques qu'elles soient criminelles ou corrompues, ne peuvent pas s'inscrire comme candidats pour les législateurs. Il y a des avantages et des inconvénients liés à la décision de la KPO de soumettre ces conditions. En ce qui concerne la décision de KPO, le président Joko Widodo a déclaré qu'il respecte la décision de la KPO à la suite de l'interdiction des ex-détenus pour les élections législatives de 2019. Le président estime qu'en vertu de la loi, KPO est autorisé à faire le règlement. Cependant, si des partis s'opposent au règlement, le président invite à utiliser les mécanismes existants tels que la soumission de tests de matériel judiciaire à la Cour suprême. À cet égard, le Parlement a invité les représentants de 5 institutions d'État, à savoir la supervision des élections générales, Bawaslu, la Commission des élections générales, KPO, le ministère de l'Intérieur, le Bureau du procureur général et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, pour discuter le règlement de KPO sur l'interdiction pour les ex-corrupteurs d'être des législateurs qui est en train de devenir un débat brûlant. La réunion tenue jeudi le 5 juillet 2018. Plusieurs institutions qui s'opposent des élections générales évaluent ce qui a été décidé par le KPO sur les conditions d'inscription. Les candidats aux législatives de 2019 sont enclins à déclencher un conflit. Kaka Suminta, secrétaire général du comité indépendant de surveillance des élections, a déclaré que l'éventualité d'une action en justice devant la Commission électorale générale ou KPO devrait se produire au moment de l'interdiction des anciens prisonniers en tant que candidats aux législatives. Selon lui, les partis politiques peuvent inclure des éléments d'anciens détenus corrompus comme les candidats potentiels de leur parti politique. En effet, l'interdiction des anciens prisonniers de corruption en tant que candidats législatifs est stipulée par le règlement de KPO numéro 20/2019 sur la nomination des membres de la DPR, les députés provinciaux ou DPRD et le DPRD de résidence ou de la ville samedi le 30 juin 2018. La question est de savoir si le KPO a une telle autorité par rapport à l'interdiction. L'enquête du retour du bouton et de la corruption par les anciens corrupteurs, s'ils deviennent des décideurs politiques, est bien raisonnable. L'effet dissuasif sur les corrupteurs est toujours perçu comme ayant peu d'impact sur les gens. Mais nous devons également reconnaître que les droits politiques d'un citoyen indonésien ne doivent pas être ignorés. Ainsi, la réunion de 5 institutions de l'État tenue le jeudi peut fournir la meilleure solution basée sur la délibération et le consensus pour la nation indonésienne. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 6 juillet. Le 6 juillet 1940, l'aéroport Kemayoran commence de s'opérer. L'aéroport Kemayoran est le premier aéroport en Indonésie ouvert pour les vols internationaux. À partir du 6 juillet 1940, l'aéroport opéré a commencé par le premier avion de type Dakota DC-3 appartenant à la compagnie aérienne des Indes néerlandaises, le KNILM. Volé de l'aéroport Cililitan. La piste de l'aéroport a été construite en 1934 et officiellement ouverte le 8 juillet 1940. L'aéroport a lentement cessé ses activités le 1er janvier 1983 et a officiellement cessé ses activités le 31 mars 1985 avec le début du transfert de l'activité aérienne à l'aéroport international Soekarno-Hatta. Le 6 juillet 1975, les Comores sont indépendants. Le 6 juillet 1975, les Comores, la nation insulaire située au large des côtes du Mozambique, en Afrique du Sud-Est, proclament leur indépendance des colonies françaises. Les Comores ont une population majoritairement musulmane et par conséquent, les habitants de ce pays sont d'accord pour établir un État islamique ou la République fédérale islamique des Comores. Les îles Comores étaient à l'origine contrôlées par les Arabes, de sorte que la religion de l'islam s'y est répandue. Après cela, les Comores ont été colonisés par les Portugais avant d'être finalement occupés par la France depuis 1832. Environ un siècle et demi plus tard, la lutte pour l'indépendance du peuple des Comores a atteint les résultats. Le 6 juillet 1975, le Parlement des Comores a adopté une résolution unilatérale pour déclarer son indépendance. Le 6 juillet 1998, l'aéroport international Hong Kong, Chek Lap Kok, s'opère officiellement. L'aéroport Chek Lap Kok a été construit pour remplacer l'aéroport international Kai Tak et a été construit sur une île artificielle récupérée des îles Chek Lap Kok et Lam Chau. L'aéroport Chek Lap Kok est réalisé par l'architecte Foster and Partners et prend un temps de construction de 6 ans pour un coût de 20 milliards de dollars américains. L'aéroport Chek Lap Kok peut accueillir 45 millions de passagers avec 3 millions de tonnes de marchandises. Après l'ouverture de la deuxième piste en mai 1999, la capacité de l'aéroport Chek Lap Kok a atteint 87 millions de passagers et 9 millions de tonnes de fret. Pendant 5 années consécutives, de 2000 à 2005, l'aéroport Chek Lap Kok a obtenu le meilleur prédicat d'aéroport. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et les Pays-Bas renforcent leur coopération économique ». La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno LP Marsudi, a reçu son homologue néerlandais, Stefanus Abraham Blok, à Gedung Pancasila du ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie, Jakarta, mardi le 3 juillet. Lors de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de croître la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Dans un communiqué de presse, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie et les Pays-Bas avaient convenu d'une coopération dans le domaine du commerce des bois par le mécanisme de l'application de lois forestières, la gouvernance et le commerce au FLEC de l'Union européenne et des mécanismes de sécurité, entre autres le trafic de drogue et le terrorisme et la cybersécurité. Lors de la réunion bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des efforts visant à améliorer le partenariat et la coopération économique entre l'Indonésie et les Pays-Bas. L'une d'elles est par la négociation d'un partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne. La ministre Retno Marsudi a expliqué que l'Indonésie et l'Union européenne négocient actuellement un partenariat économique global qui devrait être bientôt résolu. Madame Retno Marsudi a déclaré qu'en 2018, l'Indonésie et les Pays-Bas entreraient dans la cinquième année de la déclaration conjointe sur l'accord de partenariat économique global, CEPA. il devrait être en élan pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Reto Marsudi a confirmé que les Pays-Bas étaient le deuxième plus grand partenaire commercial en Europe pour l'Indonésie. Elle a dit que la valeur du commerce bilatéral Indonésie-les Pays-Bas en 2017 a atteint 5 milliards de dollars américains. Selon elle, beaucoup de produits d'exportation indonésiens entrent en Europe via le port néerlandais. L'un des principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers les Pays-Bas est l'huile de palme. En outre, les Pays-Bas sont le septième grand investisseur en Indonésie avec une valeur d'investissement d'1,49 milliard de dollars dans 871 projets en 2017. Retno Marsudi a également déclaré, concernant le tourisme, les touristes des Pays-Bas qui ont visité l'Indonésie ont augmenté de 5,31% en 2017 à 250 844 personnes. Par ailleurs, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stefanus Blok, a également exprimé l'intérêt du gouvernement néerlandais d'accroître la coopération bilatérale entre l'Indonésie et les Pays-Bas. Selon lui, l'Indonésie, en tant que la 16e plus grande économie du monde, est l'un des principaux partenaires économiques des Pays-Bas. Il a souligné que les deux pays s'efforcent maintenant pour intensifier la coopération économique. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le Magazine Culturel. Et aujourd'hui, nous vous invitons à voyager dans la province de l'Est de Java pour goûter l'aliment typique, c'est kupang lontong. Kupang est l'animal qui vit seulement dans la mer. Sa forme est similaire à palour, mais plus petite. Le diamètre d'environ 3 jusqu'à 5 mm. La couleur de corps brunâtre, il vit s'accrochant à la végétation marine sur la plage qui a des caractéristiques tranquilles avec des vagues pas trop grandes comme dans les zones côtières de l'est de Java, à savoir à Sidoarjo et Pasuruan. Les pêcheurs côtiers capturent les moules avec des outils simples. Ils faisant de la lair habitée par les moules de mer, puis ils sont transformés en aliments délicieux et nutritifs nommés le kupang lontong. Kupang lontong est l'aliment typique de l'est de Java. Pour l'en préparer, les kupang ou les moules d'abord sont lavés et bouillis. Le type de moule qui est utilisé dans cette cuisine est le moule blanc ou corbula faba, le petit ou la pâte de crevette. Le petit est un composant de la cuisine indonésienne fabriqué à partir des produits transformés, les moules ou crevettes. Kupang est servi avec le lontong. C'est le riz enveloppé dans des feuilles de bananier et ensuite bouilli avec l'étau. L'étau est un aliment fabriqué à partir d'un mélange de manioc râpé, les haricots tolo, la noix de coco râpée et les assaisonnements tels que l'ail, coriandre, le sel et le sucre. Le kupang lontong est l'aliment de Javaès, le mélange de saveurs épicées, aigres, sucrées et salées. Il sera plus complet quand il est consommé avec les brochettes de pentocle, les craquelins de l'aubergine ou craquelins d'une sorte de sangsue marine. Pour la boisson, d'habitude, le restaurant de kupang lontong servit les eaux de noix de coco. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas habitués à manger des moules, vous pouvez être allergique à cause des effets toxiques de la moule. Par conséquent, il est conseillé de boire de l'eau de noix de coco pour neutraliser les toxines et les allergies dans votre corps. Le plat est célébré notamment dans les villes de Surabaya, Sidoarjo et Pasuruan. Dans la zone côtière orientale de Java, le kupang lontong qui est célébré est kupang kraton. Le nom de ce plat est pris d'un nom de région ou un nom district de Pasuruan. Il a été à la recherche pour les résidents locaux et les coquilles de moules du commerce soient vendues ou sous la forme de kupang lontong. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans le programme L'Indonésie en couleur. Pour ce soir, nous vous informons sur la course de courir du Temple Sleman organisée par le service touristique de la résidence de Sleman, Yogyakarta, en collaboration avec Trail Runner Yogyakarta. Il y a deux catégories dans la course de courir du Temple Sleman, à savoir 25K et 13K. En accord avec la piste de course, l'itinéraire à suivre est la vallonnée avec une trajectoire rocheuse et au sol. Cet événement a eu lieu pour la première fois en 2015. Pour la route Sleman Temple Run 2018, entouré le Temple Banyunibo, Temple Bakong, Temple Sojiwan, Temple Miri, Temple Ijo, Sit Gapala Arca, le départ sera commencé à partir du Temple Banyunibo et se terminera au Temple Banyunibo à nouveau. Le chef du bureau de tourisme de résidence de Sleman, Sudarningsih, a mentionné que le kilométrage de Sleman Temple Run est toujours même que l'année dernière. Il a ajouté pour Sleman Temple Run 2018 a une différence avec l'année dernière. En plus de Sleman Temple Run, il y aura aussi un festival de cuisine de nuit dans la cour du temple de Banyunibo avec le slogan goûter la sensation de cuisiner sous l'asperge des étoiles. Les participants seront composés d'une équipe de 5 personnes. Sudarningsih espère que dans le futur, Sleman Temple Run peut entrer dans 100 événements du ministère du Tourisme. Selon elle, après 5 fois, sa partie enregistrera cette activité au ministère du Tourisme comme 100 événements qui seront lancés par le ministère du Tourisme. Pendant ce temps, Ramdan Krisnawan Hartarto de la communauté de Trail Runners Yogyakarta expliquait qu'on avait sélectionné le temple de Banyunibo parce que l'endroit est meilleur. En termes de défi lui-même, courir de trail est différent de courir marathon ou l'autre. Pour l'année 2018, il a déclaré, son médé est un peu différent des années d'hier. Cette fois, les médés utilisent du bois mélangé à de la résine fait in par le personnel local de Yogyakarta. Tandis que Selong Agung, du communauté de Sleman Night Cooking Festival, ce concours de cuisine pour être la seule compétition de cuisine de nuit en Indonésie. Il a expliqué, pour les participants généraux, qui seront divisés en 3 catégories, à savoir général, les étudiants et horeca ou hôtel, restaurant et café. Pour le menu du tour préliminaire, on cuisinera avec les ingrédients de base kecombrang. Pour le dernier tour, la cuisine traditionnelle de Mataram. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de la société de Sumatra du Nord. Restez donc avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, que vous pouvez écouter par l'onde courte de 900-200 kHz et par la diffusion en direct de voinews.id ou par l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Commençons cette édition en écoutant la chanson sans titre « Otano Batak » chantée par Victor Hutabarat. Cette chanson parle de Batakne, qui elle et sa ville natale lui a manqué. Bien qu'il ait seulement écouté la chanson, sa ville natale se sent proche, parce que Tano Batak signifie la terre de Batak. Habituellement, cette chanson est chantée pour éliminer le désir de la ville natale. Bon, chers amis, voici la chanson de Victor Hutabarat, dont le titre est « Otano Batak ».
Bye.
Voilà la chanson s'intitule O Tano Batak, chantée par Victor Hutabarat. La chanson créée par Esdis qui est très mélodique. Alors, chers amis, quelques chansons de Sumatra du Nord racontent de leur beauté naturelle. L'un d'eux est l'île de Samosir. Créée par Nahum Situmorang, le musicien de Batak qui sont assez célèbres, cette chanson parle de l'île Samosir qui est la ville natale de la communauté de Batak. La chanson dit que partout où il erre, il retournera dans sa ville natale, l'île de Samosir. Mais il sera également enterré dans l'île de Samosir. Cette chanson décrit également un grand sens de l'amour à la ville natale, l'île de Samosir. Jusqu'à présent, la chanson intitulée « Pulau Samosir » a été chanté par de nombreux chanteurs de Batak en différentes versions. Et maintenant, je vous présente la version de Victor Hutabarat.
Samosir dong, haroro aku Samosir dong,
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.